À vous de jouer, pourquoi pas. Le 21e siècle est déjà là. C'est parti. Vous y êtes. Bon voyage. Du jour au lendemain, avec Marcelin Plenet, qui publie Les Voyageurs de l'an 2000 chez Gallimard. C'est difficile, Marcelin Plenet, de vous coller une étiquette. Hein. Je ne peux pas dire que vous êtes poète, que vous êtes écrivain ou romancier, puisque Les Voyageurs de l'an 2000 se présentent non pas comme un roman, mais comme des romans. De temps en temps, on peut dire aussi que vous êtes historien d'art, critique, etc. Mais en fait, vous avez votre façon bien à vous, que vous essayez de définir dans ce livre, Les Voyageurs de l'an 2000. Vous dites, au cours des années, pensée, poésie, critique, roman, journal ne se sont jamais constitués d'une autre façon. Cette façon, c'est la mienne, qui n'est sans doute qu'apparemment confuse, brouillonne et dispersée. Mais dans cette dispersion même, je sais aujourd'hui qu'elle porte et vise fondamentalement, sans réserve, le trait, le simple trait, dans sa qualité d'existence. Phrase, dessin, dessin, dessin. Deux S-E-I-N et deux S-I-N qui marquent et jamais ne confie.
Oui, je crois que ce qui n'a cessé de m'occuper à travers aussi bien la critique d'art que la critique littéraire, que le roman ou que la poésie, c'est ce que je dirais le poétique. C'est-à-dire, au fond, le sens le plus profond du mot poésie dans son étymologie, dans son origine, qui est le faire. Qu'est-ce que c'est que le faire ? Qu'est-ce que c'est que le faire ? La création. Qu'est-ce que c'est que faire quelque chose qui mérite d'être fait ? C'est-à-dire qui est en effet la dimension du poème, du poétique. De la dimension, une dimension qui n'a pas un objectif dans tel ou tel aspect fini, mais qui a au contraire l'objectif d'ouvrir sans cesse toutes les limites.
La poésie, ça ne tombe pas du ciel de manière éthérée, comme certains le pensent quelquefois. Ça se fait avec les mains, avec le corps, avec les yeux, avec tout.
Ça se fait avec le corps et ça se fait comme un corps, et ça surgit d'un corps. Ça surgit du corps propre du poète, bien sûr. Mais ça surgit aussi de ce qui singularise et ce qui donne vie à ce corps, c'est-à-dire en effet tout le corps culturel dont il est l'héritier et le dépositaire. C'est énorme, je veux dire, de l'Ancien Testament, en passant par les Grecs, jusqu'au livre qui a été publié hier.
Alors c'est difficile de coller une étiquette à l'écrivain que vous êtes, mais c'est aussi difficile de coller une étiquette au livre que vous faites, que vous publiez, puisque celui-ci, celui qui vient de paraître chez Gallimard dans la collection L'Infini, Les Voyageurs de l'an 2000, est sous-titré, comme je le disais, roman au pluriel, et il apparaît en fait comme une sorte de journal. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, vous dites vous-même « ce journal ».
Oui, j'ai sous-titré roman parce que il me semble qu'un certain nombre d'éléments depuis disons une décennie, peut-être deux, sont en train de surgir dans l'actualité, de surgir auprès de nous, qui posent de vraies questions. Lorsque on apprend 10 ou 15 ans après que peut-être un ministre des armées a été un espion soviétique. On se dit, mais il y a 15 ans, qu'est-ce que je vivais ? Est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était une fiction ? C'était une fiction, évidemment, puisque je ne savais rien de la vérité. Lorsqu'aujourd'hui se découvre, par exemple 50 ans après, véritablement, et est enfin mis en avant ce qui s'est passé en Algérie 50 ans après, on le subodorait. Mais on a des informations tout à fait nouvelles. Donc on se dit, à ce moment-là, qu'est-ce que je vivais ? J'étais dans le réel ou j'étais dans une fiction ? Donc il me semble qu'il y a en effet ce double mouvement dans toute biographie. Un mouvement se fixe sur un réel, que je dirais relativement objectif, et un roman qui est pris, un mouvement qui est pris dans une fiction qui est aussi bien une fiction politique qu'une fiction idéologique, qu'une fiction fantasmatique. Mmh. Ce sont pratiquement, hélas aujourd'hui, on est en train de le découvrir les mêmes. Donc nous vivons en effet, quotidiennement, c'est pourquoi ce journal porte le titre roman au pluriel, nous vivons quotidiennement dans des romans qui sont plus ou moins bons. Mmh. Lorsque nous lisons un livre, c'est par exemple un livre d'essai, je pense par exemple à un livre qui est paru en effet dans ces années-là et où on faisait surgir un certain nombre de documents inédits sur Bach. Bien évidemment, nous ne le vivons pas d'une façon objective, nous le vivons aussi comme un roman. Donc il y a de bons romans et de mauvais romans, mais en vérité, quotidiennement, nous sommes pris dans de la fiction. Mmh. Nous sommes pris dans une fiction dont nous essayons de nous dégager et auquel ce mouvement de dégagement donne une réalité.
Et les fictions sont, un jour ou l'autre, attrapées par le réel.
Et en effet, elles sont alors découvertes comme de plus ou moins bonnes fictions. Mmh.
Alors, ce journal, donc, Les Voyageurs de l'an 2000, il n'entend pas, dites-vous, se comparer à aucun autre. Quelle serait sa spécificité ?
Sa spécificité tient au fait, d'abord, qu'il est quasi à 90% consacré à des lectures. Celui-ci notamment est consacré à des lectures qui d'ailleurs n'étaient pas de mon initiative. À l'époque, je travaillais à France Culture et j'avais donc des programmes de lecture que je n'aurais pas forcément lu. Par exemple, à un moment, il fallait parler de la correspondance de Roger Martin Dugard. Je n'avais jamais regardé la correspondance de Roger Martin Dugard. J'avais lu Jean Barois comme tout le monde, jeune homme, parce que la propagande m'avait poussé à le lire. Je veux dire, la propagande journalistique et critique m'avait poussé à le lire. Mais quant au journal et à la
Thibault,
correspondance...
Non,
les Thibault, jamais. Quant au journal et à la correspondance, que j'ai regardé depuis d'ailleurs les Thibault, à cette occasion. Quant au journal et à la correspondance, non, pas du tout. Et je découvre des choses tout à fait insensées sur cette France profonde et sur ce mauvais roman qui ne cesse d'être différé, mais
cette
qui est en train de surgir dans le réel. Ouais,
cette France qui allait moisir.
Oui, absolument. Absolument. Je découvre que ce prix Nobel a eu beaucoup de sympathie pour Pétain. Et qu'il a pu déclarer des choses comme ça, le fascisme en Espagne, je dirais même oui, le fascisme en France plutôt que la guerre. Ce qui est quand même, ce sont des énoncés extrêmement violents. Je n'aurais jamais découvert ça. Donc c'est lié, ce journal est évidemment lié à une activité quotidienne, mais c'est plus un journal intellectuel qu'un journal intime. Ça n'a strictement rien de gidien.
Alors, parmi les livres dont il est question dans Les Voyageurs de l'an 2000, il y a quelques-uns de vos livres, de vos propres livres. Vous citez, par exemple, à propos de la mort de Paul Flamand, qui est l'ancien directeur des éditions du Seuil, qui est peut-être votre premier éditeur, je ne sais pas. Vous faites allusion à votre premier livre, « Provisoires amants des nègres », qui a paru en 1962, c'est-à-dire 2 ans après la création de Tel Quel.
Oui. Qui était sous le coude de Paul Flamand depuis plus de deux ans. Il détestait ce titre et le titre a réussi à s'imposer de la façon suivante. Un jour, il déjeune avec René Char et au cours du déjeuner, il lui dit, vous savez, aujourd'hui, les jeunes gens sont impossibles, on ne peut pas. Et puis tout cela est d'un mauvais goût insensé. J'ai un jeune auteur qui me propose un manuscrit qui s'appelle « Provisoires amants des nègres », vous vous rendez compte ? Et Charles lui dit, mais comment, c'est un titre superbe. Donc le titre est passé de cette façon.
Sinon, ça a été légitimé par le grand poète.
Voilà, absolument, ça ne passait pas. En effet, c'est mon premier éditeur.
Autre livre que vous citez, alors celui-là a paru en 73 dans la collection telle qu'elle, et certains considèrent que c'est votre grand livre, c'est Stanze.
Oui, je considère aussi que c'est le livre le plus...
Qui vous est le plus proche.
Le plus proche et le plus radical que j'ai publié. C'est un livre qui en principe a 9 chants. Il y en a eu 4 de publiés en 73. Et je travaille au cinquième depuis une bonne vingtaine d'années. Il devrait paraître, s'il trouve un éditeur, il devrait paraître dans l'année qui vient ou d'ici 2 ans ou plus tard.
Stanze, c'est un peu votre paradis.
Oui, c'est ce qu'on veut, ce paradis. C'est moins divisé, c'est moins explicite que ça. C'est à la fois le paradis, l'enfer et le purgatoire mélangés à tout moment.
Alors, c'est donc l'un des livres de vous que vous préférez, mais vous confiez ailleurs, presque à la fin du livre, que l'un de vos meilleurs livres, c'est votre Giotto, qui est un livre, qui est un petit livre.
C'est un tout petit livre que j'aime beaucoup, qui n'est pas une
grosse monographie, qui est un petit livre qui a été publié chez Hazan, en 85. Et aujourd'hui épuisé.
Oui, il est épuisé depuis déjà pas mal d'années. Je crois que c'est un très bon livre. Je crois que c'est un très très bon livre. Je crois que c'est un très bon livre sur Giotto. Et c'est un livre qui, à mon avis, fait événement dans l'approche de l'histoire de l'art. Mais comme ça ne vient pas d'un professeur spécialiste d'histoire de l'art de la Renaissance, ça n'a pas été pris vraiment en considération. Mais je crois que c'est un livre, justement, c'est un livre où la question du purgatoire joue un rôle considérable.
Alors j'ai compté, puisque vous parlez du purgatoire, j'ai compté le nombre de livres que vous avez publiés en tout, avec celui-ci, Les Voyageurs de l'an 2000, ça fait 33.
Oui, absolument, c'est un signe de bonne santé, n'est-ce pas?
Mais vous avez publié cette année un autre livre, aux éditions Plein Feu, qui est intitulé Poésie et Révolution. Poésie et Révolution, c'est un des grands thèmes de l'international situationniste, dont il est pas mal question aussi dans Les Voyageurs de l'an 2000.
Oui, mais je crois qu'il est en effet beaucoup question de plus de Guy Debord que de l'international situationniste. Excepté qu'on peut peut-être considérer qu'il est en effet l'international situationniste à lui tout seul. Là aussi, je pense qu'on n'a pas pris en considération un événement tout à fait considérable qu'il ne cesse de souligner lui, à savoir que mai 68 a été une crise dans l'ordre de la transmission du savoir. C'est l'université. Mai 68, c'est à l'intérieur de l'université. C'est à Vincennes, et pour une raison tout à fait dont on ne veut rien savoir, encore une fois, tout simplement parce qu'on veut séparer les filles et les garçons dans les dortoirs. Mai 68 naît de cela. Ce qui est un événement bien français.
Mais ça aurait été une bonne chose quand même, non?
Ça a été... Il était temps, il était grand temps. Mais je crois que quand même, cette crise qui paralyse toute la France, se manifeste comme une crise à l'intérieur de la retransmission du savoir. Et que cette crise à l'intérieur de la retransmission du savoir n'est toujours pas résolue. Si on voit les enseignants et les universitaires défiler régulièrement dans les rues depuis quelques années quand même, ça fait pas mal de temps, je crois qu'en effet, c'est sur ce fond-là que ça continue à se traiter. Il y a crise dans la retransmission du savoir. Il y a une crise considérable dans la retransmission du savoir.
Du savoir et de l'autorité, peut-être.
Je ne sais pas. Je crois que c'est plus profond que ça. Par exemple, si on parlait tout à l'heure de Martin Dugard, il est bien évident que pendant très très longtemps, je ne sais pas si ça se fait toujours, on a fait faire des dictées aux enfants sur ce texte-là. C'est à l'intérieur du savoir que le poison a été retransmis. Mai 68 manifeste qu'il y a poison et cela fait crise. Et ça n'est pas... Regardez un peu toutes les affaires qui surgissent. Elles ne surgissaient pas avant 68. Elles surgissent depuis. Elles sont une conséquence de 68. C'est-à-dire une conséquence, en effet, que quelque chose a été perçu comme un pourrissement à l'intérieur de la retransmission du savoir. Et à l'intérieur d'un certain type de savoir lui-même, d'un certain type de littérature particulièrement appréciée par les Français. C'est-à-dire quoi ? Une littérature, au fond, qui n'aurait pas d'autre horizon que le 19e siècle. Or, bien entendu que c'est au XIXe siècle que ce nœud de poison fasciste, pétiniste, stalinien, tout ça, c'est le cœur en est au XIXe siècle. Le cœur en est au XIXe siècle. Et je pense que c'est cela que mai 68 perçoit. C'est cette transmission de cet empoisonnement de la culture qui est perçu par mai 68 et qui fait surgir les affaires aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure de poésie et révolution. Bien en effet, regardez, le XIXe siècle manifeste très bien que la poésie est en désaccord total avec l'institution qui va faire savoir pour deux siècles, avec l'institution du XIXe siècle, que ce soit Baudelaire, que ce soit Rimbaud, que ce soit Lautréamont. Vous avez un nœud extrêmement fort de résistance et de révolution réelle, c'est-à-dire de révolution qui en effet, n'est pas sociale, mais est elle-même à l'intérieur de la retransmission du savoir.
Mais Mallarmé, quand même, était prof d'anglais.
Mais c'est Mallarmé, je ne compterai pas Mallarmé dans cette affaire. En effet, il y a un gros morceau sur Mallarmé pour montrer que Mallarmé, contrairement par exemple à Rimbaud, Mallarmé ne se décide pas à rompre avec l'institution. Bien au contraire, vous savez qu'il est tout de même sacré prince des poètes, ce qui est difficile à porter.
Mmh. Ah, ça a été porté par des gens très bien, comme Paul Fort, par exemple. Alors, poésie et révolution, c'est plus pour vous un couple à réhabiliter aujourd'hui?
Mais c'est un couple absolument vivant aujourd'hui. C'est-à-dire que, en effet, le faire ne peut se faire que en révolutionnant les conditions à l'intérieur desquelles il se trouve. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe ce que 80% de la littérature aujourd'hui produit, à savoir la retransmission d'une mélancolie et d'un nihilisme dont les racines sont hélas ce que l'on sait.
Les Voyageurs de l'an 2000, Marcelin Plenet, le livre que vous publiez dans la collection de Philippe Soler, c'est l'infini, chez Gallimard. Il est en effet beaucoup question de Guy Debord, et notamment à propos de l'esprit de mai 68. Mai 68, le vrai roman, dites-vous, d'ailleurs, pour les raisons que vous avez dites tout à l'heure, parce que, là encore, hein, on peut citer Debord et dire que rien, depuis 20 ans, n'a été recouvert de tant de mensonges commandés que l'histoire de mai 68. Phrase que vous reprenez et qui figure dans les commentaires sur la Société du spectacle.
Oui, on peut citer Debord, on peut citer n'importe qui, on peut citer Debord comme n'importe qui. Je crois que c'est une œuvre à la fois claire, limpide et extrêmement difficile. Donc, il faut travailler. Il faut y travailler pour s'en approcher, pour essayer de comprendre que ça n'est pas publié en 1967, la Société du spectacle, n'est pas un événement passé, c'est un événement toujours actif et toujours présent, tellement actif et tellement présent d'ailleurs que pour le 20e anniversaire de mai 68, il y a au fond peut-être une seule personne en France qui a cité le 20e, qui a fêté le 20e anniversaire de mai 68, en tous les cas, qui a marqué le 20e anniversaire, c'est encore une fois Guy Debord avec les commentaires sur la Société du spectacle qui paraissent exactement 20 ans après.
Oui.
Qui paraissent exactement 20 ans après. Donc je pense que il ne s'agit pas d'appliquer mécaniquement et dogmatiquement ce que Debord propose de ce qu'il appelle aujourd'hui. Le spectaculaire. Il ne s'agit pas de l'appliquer mécaniquement, mais il s'agit de voir comment il fonctionne. Or, le spectaculaire, qui est au fond Le spectaculaire intégré dans lequel nous vivons, c'est la dernière phase du spectaculaire. Il y a trois types de spectaculaire pour Debord, comme vous savez. Il y a le spectaculaire diffus, qui est grosso modo ce qu'a pu être à un moment donné la culture occidentale. Le spectaculaire concentré, qui est propre au régime dogmatique et répressif. Et le spectaculaire intégré, qui ne se pose plus des questions sur l'un ou sur l'autre, mais qui porte l'un et l'autre. Autrement dit, nous sommes encore dans le gouvernement du spectaculaire. Nous sommes encore gouvernés par le spectaculaire. Mais le propre du spectaculaire, c'est en effet de se déplacer, puisqu'il est évidemment lié. Il est évidemment lié à la technique et à l'évolution de la technique. Donc, il s'agit à chaque fois de le repenser et de penser au fond quelles sont aujourd'hui les formes de gouvernement de ce que Debord appelle le spectaculaire diffus. Mmh. Je pense que la forme la plus évidente de gouverner aujourd'hui à travers le spectaculaire diffus, qui vaut bien entendu pour les politiques, c'est d'abord le spectaculaire est d'abord un événement politique. Le spectaculaire, c'est pas le spectacle. N'est-ce pas ? C'est pas les folies bergères, ni les folies françaises.
Hélas.
C'est le politique dans un certain état. Eh bien, je crois que la façon dictatoriale qu'a le politique de gouverner aujourd'hui, c'est tout simplement de terroriser. C'est-à-dire, les vaches sont folles, le lait n'est pas buvable, il y a une maladie qui court partout et qui fait que... il ne faut plus avoir de rapport sexuel, le tabac donne le cancer et la planète se réchauffe. Oui. Autrement dit, vous voyez très bien que...
la marge est étroite.
Bombardé par cela, oui, vous avez les marines... Bombardé par cela, vous avez un téléspectateur qui est absolument replié sur lui-même devant son petit écran et qui veut tout oublier dans cette fixation sur cette image qui n'a plus rien à dire. Voilà un bon mode de gouvernement dictatorial du spectaculaire. La terrorisation. Alors, en face de la terrorisation, je crois que il n'y a vraiment qu'une possibilité, c'est de répéter constamment la phrase de Lautréamont, par exemple, « Je ne connais pas d'autre grâce que celle d'être né. Vivre est une chose extrêmement agréable et extrêmement heureuse. » Tel point, d'ailleurs, qu'il n'y a qu'un vivant qui puisse dire cela.
Il est question de Lautréamont, bien sûr, dans Les Voyageurs de l'an 2000. On se rappelle que vous avez écrit un essai dans la collection Les Écrivains de Toujours, au Seuil, qui a fait date, hein, qui est sans doute l'un des premiers, une des premières grandes lectures de Lautréamont. Lautréamont et les autres poètes, Baudelaire, Rimbaud, Pindare, même Hölderlin, sont très présents à travers les lectures que vous pouvez en faire et à travers les lectures que vous faites de lecteurs de ces poètes, Heidegger, par exemple, qui est souvent cité.
Oui, aussi, c'est très difficile de parler d'Hölderlin sans citer Heidegger, en effet. Et à propos de Rimbaud aussi, ce qui est beaucoup plus riche d'enseignement, en effet. Il y a une possibilité de lire Rimbaud à partir de Heidegger, qui révèle un Rimbaud tout à fait inconnu et que les heideggeriens n'ont jamais vraiment abordé. Pour la bonne raison que le poète favori des heideggeriens, c'est Valéry. Valéry vient oblitérer le champ poétique pour tous les heideggeriens. Mais il y a un philosophe qui a une oreille, c'est assez rare, hein. il faut vraiment chercher. Donc le philosophe a des idées souvent brillantes, même il a une pensée souvent importante et active, mais lorsque cette pensée n'est pas accompagnée d'une oreille, elle bute évidemment sur le poétique à chaque fois.
Donc Heidegger a une oreille.
Heidegger a une oreille à la poésie. Les textes sur Hölderlin sont tout à fait fabuleux. Il a une oreille. Il a une oreille à la langue. Il a une oreille qui a été sourde pendant quelques années.
De temps en temps, qui entend des voix aussi.
Qui entendait absolument. Qui a entendu des voix pendant au moins un an en tout cas. Et peut-être il fallait, pour un philosophe allemand, en passer par là pour voir ce que c'est que l'horreur. il fallait peut-être participer à l'horreur à ce moment précis pour voir ce que c'est que l'horreur. Il y a un très beau texte de Hannah Arendt sur Heidegger, où elle dit « Les philosophes ont toujours tendance à un moment ou à un autre à aller vers le tyran. Il faut rendre grâce à ceux qui ont su s'en séparer à temps. » Et en effet, Heidegger est de ceux qui, à un moment, viennent rompre. Et vous savez, c'est très extraordinaire, parce que si on regarde la biographie de Heidegger, on découvre en effet qu'à partir du moment où il cesse d'être maître de l'université,
recteur d'université,
il commence à devenir suspect. Et il y a des rapports nazis sur la philosophie de Heidegger, et on lui reproche de ne pas être assez platonicien. Ce qui est intéressant aussi. Donc je crois que cet aveuglement est net, il est monstrueux. Mais la pensée qui amène la rupture, est à mon avis à la mesure de cette erreur.
Alors à propos de Rimbaud, vous relisez la parole d'Anaximandre, et là vous voyez une parfaite définition de la figure du voyant.
Exactement, c'est pas moi d'ailleurs, c'est tout simplement Heidegger qui le définit, et on a en effet enfin une définition, il s'agit de Calcas, c'est ça, n'est-ce pas, on a enfin une définition du voyant qui n'est pas limitée par la médiocrité littéraire du 19e siècle, parce que les interprétations de cette fameuse lettre, qui est quand même, dont il faudra quand même tenir compte, elle a coûté à l'État 3 300 000 francs. Ce n'est pas rien pour une lettre qui fait 5-6 pages. Ça montre quand même qu'il faudrait peut-être y regarder d'un plus près, un peu plus près, et qu'il ne s'agit sans doute pas du caprice d'un jeune garçon de 16-17 ans, n'est-ce pas, qu'il y a là-dedans des choses qui valent cher.
Ouais, les mots ont du prix.
Ouais, les mots lorsqu'ils sont portés par une pensée qui transcende sa propre histoire, n'ont plus de prix.
Alors, bien sûr, parmi les romans qu'on peut lire dans Les Voyageurs de l'an 2000, il y a un roman de la peinture qui traverse le livre, où vous parlez aussi bien du Louvre, vous dites que vous y êtes depuis toujours comme chez vous, dans ce musée, et vous multipliez les visites plus ou moins régulièrement, pour voir quelquefois simplement les chefs-d'œuvre qui sont là depuis toujours, mais aussi des expositions particulières, comme une exposition Bassano qui vous a beaucoup impressionné. Et presque dans le même mouvement, vous parlez de l'autre face, celle de support surface, par exemple. Quand vous voyez en 98 l'exposition qui est consacrée au mouvement au jeu de paume, et là vous revenez sur le rôle qui a été le vôtre dans la constitution de ce groupe en 1967, avec des artistes qui, à cette époque-là, n'avaient pour la plupart jamais exposé.
En effet, je crois que, je ne sais pas si les trois quarts, n'avaient, à mon avis, jamais exposé. Et je pense que en 67, 68, 69, etc., ces artistes ont été portés par quelque chose. Ils ont vraiment été portés par quelque chose qui a fait événement dans ce qu'on considérait à l'époque comme la peinture en France, qui était grosso modo l'école de Paris d'après-guerre. Et là, ils ont vraiment été portés par quelque chose, et ils ont troublé le champ, et ils sont restés d'une certaine façon à l'initiative de ce qu'ils faisaient dans cette façon de troubler le monde de l'art. Et puis peu à peu, et ça c'est un problème, parce qu'en effet les tableaux sont plus directement liés à l'argent que les livres. Peu à peu, ils ont été fascinés par les sirènes du marché. Et c'est le marché qui a pris l'initiative. Et lorsque le marché prend l'initiative, il est très rare qu'un artiste résiste vraiment à ce type d'initiative. Et en effet, il me semble que tout cela s'est considérablement tassé à la fin des années 70.
Mais vous posez tout de même cette étrange question, me suis-je assez fourvoyé dans cette affaire de peinture ?
Oui. Oui, parce que, au fond, lorsqu'on regarde, lorsque l'on regarde une œuvre, ou plutôt lorsque je regarde une œuvre, il y a un sentiment d'exaltation qui arrive. Et en plus, si c'est une œuvre d'un artiste qui n'est pratiquement pas connu, il y a une sorte d'exaltation qui arrive, quelque chose est en train de se faire. Et je suis toujours... propre à mon caractère. Je suis toujours très, très emporté par ce qui est en train de se faire. Je suis toujours très, très positif vis-à-vis de ce qui est en train de se faire. Donc j'ai joué l'entrain de se faire avec entrain, c'est le cas de le dire. Et bien sûr que je me suis fourvoyé, mais ça n'est pas grave du tout. S'il y a une chose que je ne crains pas, c'est de me tromper. Je n'ai pas de crainte de me tromper parce que c'est aussi en se trompant qu'on risque de découvrir ce qui se passe vraiment dans l'ensemble des éléments que l'on prend en considération, que ce soit la peinture ou que ce soit la littérature. Alors en effet, oui, on se trompe, on peut se tromper aussi au Louvre, mais c'est déjà plus difficile parce que la sélection est faite et que l'histoire a été traversé par les tableaux qu'on considère, mais le Louvre est un lieu absolument merveilleux. Il y a des salles où il n'y a pratiquement jamais personne, n'est-ce pas, qui sont pratiquement inhabitées au Louvre, où on est très très tranquille. Le 18e français, par exemple, vous pouvez aller dans le... D'ailleurs, ce sont les salles les plus mal accrochées, c'est pas très grave. Vous pouvez aller vous promener dans le 18e français, vous êtes tout à fait tranquille. Je me souviens fréquenter les salles du 18e français au moment où il y avait une exposition Chardin où on ne pouvait pas rentrer parce qu'il y avait 300 mètres de queue chaque jour à l'entrée de l'exposition. Et dans le 17e et dans le 18e français, vous pouviez vous promener, vous aviez des tableaux de Chardin devant lesquels d'ailleurs personne ne s'arrêtait. Donc on est très bien au Louvre. C'est un lieu tout. Non, on est très bien. Je suis aussi bien au Louvre que dans ma bibliothèque.
Le 4 septembre 1998, Marcelin Plenet, vous demandez dans une note pourquoi on vous invite à France Culture.
Oui, c'était une question que je me suis toujours posée. J'ai été très aimablement invité et j'ai toujours été très aimablement reçu. Or, quand je suis aimablement reçu par quelque part, si on me réinvite, je reviens. Donc on m'a réinvité, je suis venu. Mais ce qui me frappait, c'était au fond que mon discours était toujours inadéquat au discours ambiant. Et c'était sans doute aussi pour ça que j'étais invité. C'est-à-dire ça apportait un peu d'animation, si vous voulez. Ça multipliait les points de vue, multipliait les voix, et ça faisait que très souvent d'ailleurs les auditeurs se plaignaient parce que comme tout le monde parlait en même temps, on n'entendait plus très bien ce qui se disait. Mais c'était assez amusant. Et en effet, je me suis demandé pourquoi j'étais invité, parce que j'ai en effet une pensée et un discours assez que je considère comme assez atypique. La critique, d'ailleurs, s'en rend généralement compte, puisqu'elle ne rend jamais, compte. Prend jamais en considération ce qui est atypique. Donc j'en conclus que mon discours est très atypique. Et donc je me demandais à chaque fois pourquoi j'étais invité. Et je trouvais assez sympathique, en effet, qu'on invite un discours
En tout cas, dans du jour au lendemain, vous serez toujours invité quand vous écrirez des livres comme Les Voyageurs de l'an 2000.
Merci.
Le livre de Marcelin Plenet, Les Voyageurs de l'an 2000, est publié chez Gallimard. Du jour au lendemain, Christian Fontaine, Bernard Treton, Didier Pinault, Alain Weinstein. Bonsoir.